Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. De retour.
De retour, absolument.
De Paris.
De Paris. Et donc, j'ai remarqué que Hanouka se rapproche. Oui. Bon, on a encore le temps, mais enfin, pourquoi pas préparer tout doucement Hanouka.
Mais ça se prépare moins que Pessah, par
exemple. Ah oui, ça se prépare. Oui, Hanouka, c'est une de mes fêtes préférées. Pourquoi? Justement, parce qu'il y a très peu de préparation, parce qu'on peut travailler. Et parce que c'est vraiment très sympa le soir quand il fait froid, même si on n'a plus les hivers d'antan, mais enfin il peut quand même faire froid.
Ouais.
Eh bien, il fait froid, les journées raccourcissent, c'est même là que les journées sont les plus courtes. Et puis on se retrouve le soir, on allume les bougies.
Avec les uns et les autres, c'est pas la petite famille.
C'est sympa, oui,
ouais,
oui, et on se retrouve
intime,
ensemble, voilà. Et puis on allume ses bougies, ça fait de la lumière. Et ça permet vraiment de passer comme ça ces soirées d'hiver qui sont des fois un peu tristes et comme ça qui deviennent très très sympathiques. Et puis on mange bien sûr des latkes. Et voilà, donc ici j'ai trouvé Pâche et Shalom Aleichem, dont nous avons déjà lu abondamment les nouvelles concernant Hanouka. Puis j'ai trouvé dans le deuxième grand classique, non, le troisième, pardon, grand classique de la littérature yiddish. Un texte, donc il s'agit de Isaac Leibusch Peretz. Donc Isaac Leibusch Peretz qui est né en 1852 à Zamotch, près de Lublin, et qui est décédé en 1915 pendant la guerre d'une crise cardiaque, donc pas très âgé. Et Peretz a eu une vie assez mouvementée, donc il a été en particulier avocat à un moment, et à cause de ses ennemis, il a dû abandonner ce travail. Et finalement, il a travaillé à Varsovie, il était un administrateur, et en fait, il administrait en particulier l'attribution des espaces dans le cimetière. Voilà, c'est lui qui s'occupait de ça, voilà. Et parallèlement, il a une œuvre énorme, il a énormément écrit, des choses différentes. Il a écrit en particulier un rapport sur les Juifs, qui s'appelle, je crois, les Oubliés du Yiddishland, donc sur ces gens misérables qui vivaient dans les shtetls. C'est un des premiers ouvrages, on peut dire, anthropologiques, ethnologiques, en yiddish. Et puis ensuite, il a écrit des récits et aussi des récits chassidiques, c'est-à-dire qu'à un moment, bien qu'il fût tout à fait un masquil, un homme des Lumières qui avait énormément lu, il a aussi écrit un poème qui a fait sensation, qui s'appelle Moniche, qui a été publié par Shalom Aleichem et qui a été comme ça aussi, là aussi, précurseur de la littérature poétique yiddish. Et il s'est beaucoup intéressé au chassidisme et il a écrit des contes chassidiques, donc inspirés du chassidisme, mais bien que lui-même, comme je disais, ne faisait pas du tout partie de ce groupe. Hein, voilà, c'est à la fois à l'extérieur, à l'intérieur. C'est vraiment un personnage très intéressant, très partagé, et il a en particulier écrit un texte aussi qui s'appelle « Espoir et peur, Hoffnung und Schreck », où il parle justement de la naissance des mouvements révolutionnaires, donc socialistes et communistes, dont il dit ça apporte beaucoup d'espoir, mais que c'est aussi, ça peut être très effrayant et que les opprimés d'autrefois peuvent devenir les oppresseurs. Donc c'est vraiment un texte très très prophétique de ce qui va effectivement se passer, en particulier en Russie soviétique. Bien qu'il n'ait évidemment pas connu tout ça, puisqu'il est mort en 1915, donc avant la révolution russe. Hein. Mais il sent comme ça que dans ces mouvements, dans ces gens tellement passionnés, tellement violents, ça peut vraiment être dangereux. Hein. Mm-hmm. Voilà, donc, comme je disais, une œuvre variée. Donc, Sekon, dont le plus célèbre, c'est La métamorphose d'une mélodie, à Gilgel von Anigen. Et là, j'ai trouvé donc une petite nouvelle, je dis une petite parce qu'elle est vraiment courte, et qui se trouve dans un livre qui s'appelle « Métamorphose d'une mélodie, contes et récits », dans la collection « Présence du judaïsme » chez Albin Michel, édité en 1977. Donc ça fait partie vraiment des premières traductions du yiddish, encore qu'il y en ait eu encore avant, hein. Il y a eu comme ça plusieurs mouvements, ce serait aussi intéressant à étudier, plusieurs mouvements de traduction du yiddish. Et donc, c'est traduit par un monsieur qui s'appelle Gottfried Stein, que je ne connais pas. Hein. Il ne fait pas partie des traducteurs du yiddish que moi, je connais. Bon, les traductions ne sont pas toujours parfaites. On avait vu avec Gilgel von Anigen, on peut discuter des choses. Mais bon, il y a eu ça aussi, il y a différentes époques. Il y a un moment où on était peut-être un peu moins médaïek, comme on dit en hébreu, un peu moins pointilleux sur les traductions.
De toute façon, on dit que pour une traduction, il faut la refaire tous les 30 ans.
Voilà.
J'ai entendu ça,
ouais, de ça aussi,
traducteur ouais. Patenté. Tous les 30 ans, il faut revoir, la langue bouge, la sensibilité change... Et en particulier par rapport au yiddish aussi, avec tout ce qu'on disait sur les mots rituels, les mots de... Voilà,
oui,
de les traduire avec des notes ou mettre, par exemple, Pentecôte pour Shavuot, etc. Oui. Christianiser, laïciser le propos juif, tout ça, c'est des questions...
Oui, c'est très, très intéressant. Et effectivement, est-ce qu'on garde les mots en yiddish ou en hébreu? Est-ce qu'on les traduit? Est-ce qu'on met des notes? Par exemple, celle qui fait ça très très bien, c'est encore une fois Batia Baum. Alors souvent, elle met, là j'ai regardé un livre sur Mendelem Eichersforim, elle met le texte en yiddish ou en hébreu, et puis elle traduit à côté, voilà, pour donner quand même le sens de la langue et la musique de la langue. Ici, vous allez voir, il emploie certains mots en yiddish sans les traduire, et puis d'autres où... Et puis des fois, il traduit. Enfin, il n'y a pas vraiment, c'est toujours pareil, il n'y a pas vraiment je trouve qu'il n'y a pas vraiment un choix, voilà, dans son texte. Voilà, on va peut-être écouter déjà une première musique avant de commencer la lecture.
On célèbre donc les premières traductions du yiddish, ou les premières connues, éditées par un grand éditeur. De la même manière, on célèbre, si on peut dire... le renouveau en France de la chanson yiddish, pour moi, il y a deux personnes qui représentent ça. C'est Moshe Leiser, qui était belge, et qui vit toujours, et Talila, en France. C'est les deux qui ont recommencé dans les années, fin des années 70, début des années 80, à reprendre ce répertoire et à l'interpréter. Et ce disque de Moshe Leiser, très connu, qui est devenu... culte un petit peu, si on peut dire, qui s'appelle Tendresse au pluriel et Rage au singulier. C'est en plus le premier CD de ma collection que quelqu'un m'a offert avant même que je n'ai un appareil pour le lire. Et c'est suite à ce cadeau que j'ai acheté à lecteur de CD. Bon, aujourd'hui, c'est déjà complètement obsolète, évidemment, alors que j'ai une magnifique collection de CD yiddish. Et donc, il est vraiment formidable, ce CD, il faut bien dire. Et donc, il célèbre aujourd'hui même, ou cette semaine, c'est 40 ans. Fin octobre, c'est écrit sur la pochette, fin octobre 1985, et maintenant nous sommes fin octobre, début novembre 2025, donc il célèbre ses 40 ans. Alors, c'est aussi quelque chose à remarquer par rapport à l'histoire de l'édition. Là, il met les textes en français et en anglais. Rien en yiddish, ni en caractère hébraïque, ni en translittération, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. On mettrait aujourd'hui en caractère hébraïque, pas toujours, mais en tout cas en translittération, pour que les gens puissent chanter eux aussi, ou suivre. Là, non, en français et en anglais. Alors, est-ce qu'il a eu tant d'ouverture vers les pays anglophones? C'est pas très bien, quand même. C'est resté plutôt européen, bien que, comme il le dit, il est belge. Alors, c'est Moshe Leiser, c'est vraiment un polyglotte, de par l'histoire familiale, et parler l'hébreu, le yiddish, donc, le français, bien sûr, le flamand, toutes ces langues qui se sont mélangées, l'allemand et l'allemand. Voilà, alors, ne parlons pas plus longtemps. En rapport avec Hanouka, j'ai choisi de ce CD des choses autour de la jeunesse, de l'enfance, de la famille. Donc, pour commencer par Juliette, réjouissez-vous. Alors, ce qui est spécial chez Moshe Leiser, je trouve, c'est qu'il tire tout un petit peu vers le nostalgique, vers l'intime, vers le triste, quoi, finalement. Même les chansons, comme beaucoup d'autres chanteurs, chanteuses, les chantent de manière beaucoup plus enjouée. Il y a quelque chose en lui qui le tire un petit peu vers le bas, vers le... Bon, et les fins de phrases qui se perdent comme ça, c'est très très joliment chanté. Mais on peut se demander quand même pourquoi tout est tellement, à cette tonalité tellement nostalgique, y compris ce Juliette. Bon, qu'est-ce que dit Gubertig dans Juliette? Il dit « Réjouissez-vous parce qu'on vieillit très vite ». C'est un des thèmes de Gubertig.
Oui, jouez les enfants, amusez-vous parce que le temps passe.
Le temps passe. Et pourquoi vous ne m'acceptez pas dans votre ronde? J'ai les cheveux gris, mais mon âme est encore très jeune. Mais c'est beaucoup le regret des années qui passent. Il y a d'autres chansons autour de ce thème. C'est vrai que Gubertig est aussi un grand nostalgique, et puis peut-être c'est cet aspect-là qui résonne chez Moshe Leiser, et que c'est pour ça qu'il le prend comme ça. Bon, c'est très beau, quoi qu'il en soit. Donc, Juliette, chanté par Moshe Leiser et accompagné par le violon de Ami Flammer.
Kinderlech, oi der Frühling schön beginnt, der Frühling schön beginnt, oi wie bin ich kinderlech, me kann eich azint, oi wie bin ich kinderlech, me kann eich azint, ei holiet, holiet, kinderlech, als man ihr sen noch jing, weil von Frühling bis zum Winter is a Katzenstrick. Spielsach, liebe Kinderlech, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergin mich euer das Glück. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergin mich euer das Glück. Ah, Juliet, Juliet, Kinderlech, Goldsmann, ihr seid noch jung. Weil vom Frühling bis zum Winter ist ein Katzenbring. Ah, Juliet, Juliet. Auf mein großer Kopf, es stört aus euch im Spiel, es stört aus euch im Spiel. Oi, meine Schome ist noch jung, zurück mit Juren viel. Meine Schome ist noch jung, zurück mit Juren viel. Oi, Juliet, Juliet, Kinderlech, Goldsmann, ihr seid noch jung. Weil von Frühling bis zum Winter ist ein Katzenbring. Ei, Juliet, Juliet, Kinderlech. Oi, meine Schome is noch jing, und geht für die Bänkschaft heus, und geht für die Bänkschaft heus. Oi, wie gern wie sie für euch für den alten Guffer reus. Oi, wie gern wie sie für euch für den alten Guffer reus. Ah, ei, Juliet, Juliet, Kinderlech, Kolzmann, ihr seid noch jing. Weil von Frühling bis zum Winter is a Katzenfring. Ei, Juliet, Juliet. Spielsach, liebe Kinderlech, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Oi, weil der Frühling eckt sich bald mit ihm das höchsten Glück. Oi, weil der Frühling eckt sich bald mit ihm. Juliet, Juliet, Kinderlech, Kolzmann, ihr seid noch jung. Weil von Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Juliet, Juliet.
Voilà, donc après cette chanson d'enfant, ça va très bien effectivement avec Hanouka. Voilà donc le texte lui-même de Peretz qui s'appelle La Hanoukia. Puisque c'est la fête de Hanouka, je vais vous raconter comment un juif descendu très bas, que Dieu vous préserve d'un tel sort, a pu remonter la pente grâce à une lampe de Hanouka. Si vous pensez qu'il s'agissait d'une Hanoukia en or ou en argent, détrompez-vous, ce n'était qu'une lampe en cuivre, une lampe tordue à laquelle manquait un bout de tube que de lointains ancêtres avaient laissé en héritage. Autrefois, ce riche avait été fort, aisé, cossu, il s'était enrichi d'un seul coup. De quelle façon? Ceci est hors de notre propos. On raconte qu'une fois, un soldat remontait la rue avec une barre de fer qu'il voulait vendre, que notre homme l'avait achetée à vil prix, et lorsqu'il avait commencé à la nettoyer, on s'aperçut qu'elle était en or. On a dit que le soldat l'avait volée dans une banque. Mais quand un vieux riche s'enrichit, il sort le vieux blé pour mettre la nouvelle récolte à la place. Notre juif décida de refaire l'intérieur de sa maison, de s'habiller à la mode des riches et de se transformer en une espèce d'Allemand, voilà. Donc les Allemands à l'époque étaient considérés comme les Juifs modernistes qui souvent abandonnaient justement la pratique. Et si lui était devenu une espèce d'Allemand, sa femme, elle, se métamorphosait en une sorte de Parisienne.
Encore pire.
Ou mieux, oui. Elle jeta bas sa perruque, le couple avait deux fils, allaient au Cheder, donc à l'école juive bien sûr, donc il ne traduit pas Cheder. Maintenant ils allèrent au lycée. Et à l'intérieur de la maison, il fallut lui donner un nouvel aspect. Il y avait une armoire où on rangeait des livres de piété, des rituels et d'autres livres d'édification. Mais qui avait besoin de tout ce fatras? On en ferait cadeau aux bêtes à Midrash. L'armoire à livres, elle était vieille, vermoulue, on la cassa en petits morceaux pour allumer le fourneau. La maîtresse de maison mit un trumeau à la place de l'armoire. Un trumeau, je pense que c'est une armoire avec un miroir, puisqu'elle... Elle disait que maintenant, elle se contemplait amoureusement. Elle voulait se voir de haut en bas. On fit venir un brocanteur. On liquida les vieux meubles pour une bagatelle et on les remplaça par du Louis XIV flambant neuf. Oui, alors, évidemment, du Louis XIV flambant neuf, c'est tout à fait ironique. Les chaises étaient de bois doré. Leurs pieds galbés étaient montés sur des roulettes. On n'osa pas s'asseoir dessus. Il y avait un peu d'argenterie à la maison, des boîtes d'étrogue, des boîtes à épices, on les vendit. On en mit de côté pour les offrir aux jeunes mariés de la famille. On acheta un service en cristal, des vases à fleurs comme disiez à des gens fortunés. Mais la roue tourne, un moment vint où tout commença à dégringoler dans cette famille. On ne pouvait plus aider les deux fils qui étaient à l'étranger. On trouvait très difficilement quelqu'un pour prolonger une traite. Tout alla à la dérive. On chercha dans la maison quelques objets de valeur à mettre en gage et on ne trouva rien, car entre-temps le Louis XIV a été abîmé, le service du cristal ébréché. Ce fut la misère. Tant et si bien qu'on finit par se souvenir de l'ancienne Yiddishkeit, de la manière de vivre traditionnelle. Madame alla de temps en temps chez la voisine emprunter le Tzéné ou Réné, donc le Pentateuque commenté à l'usage des femmes, et Monsieur Salomon se fit de nouveau appeler Shloime Zalman. Il alla même jusqu'à remettre de temps en temps son châle de prière et ses tefilines, ses phylactères. La fête de Hanouka venue, il ne put résister à l'envie d'allumer les bougies. Des petites bougies, on finit par en retrouver, mais la lampe de Hanouka, il n'y en avait plus. Pas de bout de bois. Mais Shloime Zalman se souvint qu'à l'époque de sa splendeur, il avait rangé une vieille lampe de Hanouka en haut du poêle. « Shloime Zalman, lui dit sa femme, monte le chercher !» Il mit un tabouret sur la table, approcha la table du poêle, la table grassa, chancela, mais l'épouse de Shloime Zalman le soutient. Louis XIV gémit, mais il parvint finalement à saisir la Hanoukia. On l'épousta et Shloime Zalman put enfin dire la bénédiction. On répéta cette cérémonie le deuxième, le troisième et jusqu'à la huitième soirée. La joie régnait, mais pour ce qui est du souper, il fallait s'en passer. C'était bien triste, mais que pouvait-on faire? Soudain, ils entendirent sonner à la porte. Ils sursautèrent, allèrent ouvrir et virent un jeune homme qui se disait brocanteur. Il achetait, disait-il, n'importe quoi. Shloime Zalman étouffa un rire. Est-ce possible? Cet Anglais fou, le visage rasé, c'est peut-être une femme déguisée en homme. prétendait venir exprès de Varsovie pour acheter du bric-à-brac. Peut-il entrer ? Mais oui, il trouvera ce qu'il lui faut. Dans un vieux ménage, on trouve toujours quelque chose qui traîne. Le vieux couple se regarda. Avait-il un objet dont il pourrait se passer ? L'anglais entra, il enleva son chapeau et quand il aperçut la Hanoukia, il la dévora des yeux, il la prit dans ses mains qui se mirent à trembler. Il la tourna, la retourna. « Puisque je vous dis que je suis un maniaque des objets anciens, combien ?» demanda l'allemand, l'anglais, pardon, un allemand petit nègre. Bref, et pour tout dire, Schleimesalmen a vendu la Hanoukia et il a pris ce que l'anglais lui a donné. Celui qui s'était présenté à la fois comme anglais et brocanteur quitta la maison en laissant le vieux couple ahuri et bafouillant. Il est fou, cet anglais, remarqua Schleimesalmen. Peut-être, suggéra sa femme d'un ton hésitant, mais peut-être était-ce le prophète Élie qui nous a rendu visite grâce au mérite que nous avons acquis en allumant les bougies de Hanouka. Quoi qu'il en soit, il y avait de quoi acheter à manger pour le souper, quelque chose pour le petit déjeuner du matin. Et on pourrait même aller en ville pour affaires. Cet argent était comme béni, la roue s'était remise à tourner et dans la bonne direction, et Schleimesalmen redevint Monsieur Salomon. Tout alla de mieux en mieux. Les enfants de l'étranger envoyèrent des lettres heureuses. L'un était à Londres, il était ingénieur, il venait de se marier, il invitait papa et maman pour faire connaissance de leur bru. En route donc, on ne pouvait que se réjouir de tout ce qu'on voyait chez le jeune ménage. On visita Londres, ses monuments, ses usines, les théâtres, les concerts. Et même une fois, il leur arrivait d'aller à une exposition. Et laissez-moi vous dire le grand étonnement dont furent saisis Schleimesalmen et son épouse lorsqu'ils se trouvèrent dans une des salles du musée en face d'une vieille Hanoukia qu'on exposait sous globe. Ils reconnurent bien les lions souriants, les abrisseaux avec l'oiseau, le pied tordu, le tube auquel il manque un bout. « Ah ben non, il n'était pas fou du tout l'anglais, pensa Mister Salomon. Et ce n'était pas le prophète Élie, ajouta dans son fort intérieur la lady. » Quant à échanger des réflexions à haute voix à ce sujet en présence de la jeune bru, il ne fallait pas y penser. Il ne pouvait que réfléchir en silence à tout ça. Et peut-être que vous aussi, allez-vous à votre tour y réfléchir un peu. Voilà, donc c'est un charmant petit histoire.
Mais c'est peut-être leur Hanoukia. C'est peut-être la leur qui est exposée.
Mais c'est la leur.
C'est la leur.
Oui, ils la reconnaissent parce qu'elle est cassée justement. Elle est de travers.
Ah oui.
Voilà. Non, mais c'est belle. C'est belle. Avant de se quitter, écoutez une deuxième
oui,
histoire.
Oui, on a une
deuxième chanson décidément.
Bah, alors bon, et c'est riche. C'est évidemment ce CD. Il est riche. Encore, il est pas tellement long. Pas tellement de titres que ça, mais ils sont relativement, il y en a 13. Ils sont quand même relativement longs chacun. Bon, là, j'ai choisi une histoire vers... ça s'appelle Mamele, petite maman, et c'est pas la Yiddish Mam, c'est une autre chanson, pas très connue d'ailleurs, dont je vous lis rapidement la traduction, et puis on fera entendre... la chanson dans son intégralité, elle est très belle. Je te vois encore allumer les bougies du Shabbat ou alors de Hanouka. La lueur rouge est douce sur ton visage, sacré. Chacune de tes paroles. Heureux celui qui a pu te voir bénir la lumière. Mamele. Avec amour, je t'appellerai Mamele. Tes beaux yeux, ta faible main, ton cœur d'or qui comprend chaque enfant. Je me souviens comme tu savais m'apaiser. J'avais 3 ans à peine, je te revois. Tu me prenais alors sur tes genoux et d'un baiser, tu essuyais chaque larme. Ta tête est blanche comme la neige qui tombe. Vois comme Dieu fait les choses. Tu trembles déjà. Tes cheveux deviennent gris et tu vieillis. Mamele, sois béni. De Dieu, Mamele. Alors, on ne sait pas qui a écrit ce texte, mais ce n'est pas Gebirtig, malgré les regrets sur les années qui passent trop vite et la vieillesse qui est là. Donc, Mamele, chanté une nouvelle fois par Moshe Leiser.
On vous dit Shalom Aleichem,
à la semaine prochaine. Et merci Thomas.
Wie du zinnst das Licht vor Schabes, die Schrina reut und leicht auf dein Gesicht. Ui heilig jedes Wort, glücklich werdet hot, ich bin schon dick wie lieb. Mamele. Mit Liebschaft will ich rufen dir, Mamele. Augenschein, schwach dein Hand, a golden Herz hast du und jede Kind versteht. Ich gedenk, wie du pflegst mir beruhigen, a Kind von 3 Uhr bleibt, ihr darfst ihr sehen. Wie du pflegst mir sessen damals auf dein Scheuß, mit a Kusch, hast gewischt jeden Träh. Weiß dein Kopf, wie Schnee, wo's fällt. Gott, wär's tut, bangt, wär's du, wär's groß und alt. Ui, Mamele, Mamele, sei gebensch von Gott, Mamele. Pflegst mir beruhigen, a Kind von 3 Uhr bleibt, ihr darfst ihr sehen. Wie du pflegst mir sessen damals auf dein Scheuß, mit a Kusch hast gewischt jeden Tränen. Aber wie weiß dein Kopf, wie Schnee wo's fällt. Ui Gott, wär's tut, bang, wär's du, wär's groß und alt. Ui Mamele, Mamele, sei gebenscht von Gott, Mamele.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.